Well, it's got the
Radio Campus.
Most exciting thing so far is in the treatment.
La chose la plus stimulante, en fait, c'est de savoir ce qu'il se passe dans notre cerveau.
17h13, commentaire, tout s'accélère, tout éclaire dans mon esprit. On fixe
7h10.
Pendant des heures à s'en rendre aveugle. À quoi ça sert d'avoir des yeux si le cerveau ne réagit pas? Si le cerveau n'est pas là pour capter l'image qu'il perçoit, il ne voit rien.
88.3.
La guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes, une ampleur exceptionnelle, 34 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours, décor de la Turquie, palais de la
Syrie. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Cela provoque une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
À bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Bonsoir et bienvenue à vous. Nous sommes en direct ce soir depuis Le Bouillon, salle culturelle de l'Université d'Orléans. Dans le cadre d'Ondulation, festival de création radio numérique organisé par Radio Campus Orléans. Ondulation qui s'inscrit dans le Grand Bain, un festival des étudiants organisé par Le Bouillon tous les ans entre les mois d'avril et de juin. Dans À bâton rompu ce soir, nous parlons de numérique, de formation numérique à l'Université d'Orléans avec Alexandre Tessier, directeur du pôle informatique. Bonsoir Alexandre et bienvenue.
Bonsoir, oui, donc je suis Alexandre Tessier, responsable du pôle informatique, donc on y reviendra tout à l'heure, hein. C'est à la faculté des sciences, le pôle qui regroupe les formations d'informatique.
Il y a trois formations,
c'est
vous.
Il y a trois formations, c'est ça, une licence et deux masters.
On essaiera de prendre le temps d'expliquer tout ça. Nous parlons également de précarité numérique, et notamment chez les étudiantes et étudiants, une question devenue prégnante lors du confinement, avec Aurélien Foucré du réseau numérique, réseau d'acteurs de l'inclusion numérique de la métropole orléanaise, c'est ça?
Oui, c'est ça. Bonsoir tout le monde. Donc oui, je suis coordinateur du réseau numérique, une initiative partenariale lancée en 2019 par Orléans Métropole qui consiste en fait à travailler sur les questions d'inclusion numérique et d'accès aux droits et d'accès au numérique pour le plus grand nombre.
Dave, le CRIA que vous représentez ici, le Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme du Loiret, travaille avec l'Université d'Orléans. Depuis quelques temps.
Tout à fait. Ça fait quelques semaines qu'on travaille avec le bureau de l'aide, notamment pour traiter des sujets de précarité numérique étudiante et donc essayer de structurer des filières d'aide à l'équipement, d'ateliers numériques et de formation numérique pour les étudiants.
Eh bien, nous en parlerons avec vous dans l'émission. Victor est là. Bonsoir, Victor.
Bonsoir, Hassan. Bonsoir à toutes et à tous.
Comment ça va bien?
Bah, ça va plutôt pas mal.
Ça va plutôt pas mal. Le numérique, ça te parle, toi?
Oui.
Sérieux?
Bah, un petit peu, ouais. Enfin, je passe la majeure partie de mes journées sur mon ordinateur, donc oui, quand même.
Et celui à qui ça parle vraiment dans cette radio, c'est Erwan qui est avec nous.
J'ai ouvert. Bonjour, Hassan.
Comment ça va, Erwan?
Superbement, et toi?
Oui, c'était lancé la semaine dernière, hein, cette Ondulation, je crois.
Exactement. La semaine dernière, on s'est donné rendez-vous pour un premier. C'était mardi soir dernier, donc il y a une semaine tout pile, j'étais en résidence Crous. J'ai rencontré les résidents et les résidentes des résidences Crous et je leur ai posé quelques questions autour de leurs usages du numérique. Et ensuite, jeudi dernier, on a donné rendez-vous à nos bénévoles et même autres personnes hors de nos bénévoles pour un premier atelier. C'était un atelier « Je réalise une fiction radio grâce à l'intelligence artificielle et plus spécifiquement ChatGPT ». Et ce soir, dans le club, la salle de musique du Bouillon à Sannes pour Abaton Rompu. Et puis pendant ce temps-là, juste à côté de nous, il y a un deuxième atelier.
Il y a des ateliers qui a lieu. Je vois, ils sont là. Voilà. Concentrés.
Un atelier de soudure où les participants peuvent souder en fait leur propre petit poste de radio FM et repartir avec chez eux. Un atelier qui est très bien mené par Thomas, voilà, que je salue au passage et qui est juste à côté de nous.
Donc, salut.
Ce soir, un espace multi-usage, à la fois émission, plateau de radio et à la fois espace d'atelier, c'est le Bouillon.
Et ce midi, dans le cadre de Écoute ta fac, tu as pu avoir autour du plateau, autour du micro, des intervenants de l'Université d'Orléans. On peut écouter tout ça, hein, toutes les émissions, en podcast sur le site de la radio. Là, sur, maintenant, déjà...
Les podcasts arrivent le lendemain de la diffusion des émissions. Donc, l'émission d'Écoute ta fac de ce midi est à retrouver sur notre site orléans.radiocampus.org à partir de demain matin. Et évidemment, Écoute ta fac, ça continue toute la semaine. Ça continue demain midi et également jeudi midi. D'ailleurs, jeudi, on se donne rendez-vous à partir de 18h pour une petite soirée cocktail. On aura des petits fours réalisés par Valentin et Julie qui sont également avec nous dans le public.
Qu'on salue.
Voilà, et qui font du magnifique travail. Ce soir, ils nous proposent déjà un petit cocktail. Et puis, on leur donnera également rendez-vous ce jeudi à partir de 18h ici au Bouillon pour la restitution à partir de 18h, donc des ateliers de création de fiction radio qu'on a réalisé la semaine dernière. Et à partir de 20h30, ça sera place à Poly DJ, cette association étudiante qui mettra le feu au dance floor au Bouillon.
Ondulation, un festival créé par Radio Campus Orléans avec le grand Erwan. C'est du travail super bien fait. À bâton rompu, avec Mourad Guichard maintenant, vous le savez, journaliste indépendant, pour décrypter quelques sujets d'actualité. C'est parti.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Hassan.
Merci d'être encore avec nous ce mardi pour décrypter quelques sujets d'actualité. Nous commençons par l'actualité orléanaise. Au moment où nous parlons, une manifestation a lieu devant la médiathèque à Orléans, à l'appel de plusieurs organisations politiques, syndicales et associatives. Une manifestation contre la tenue d'une conférence organisée par l'association France Souveraineté. Cela nous rappelle ici quelques souvenirs. Nous avons déjà parlé de cette association lors d'une précédente conférence qu'elle souhaitait organiser, qui avait été interdite par la mairie cette fois-là, face à la pression.
Alors oui, c'est très surprenant parce que on s'était étonné. Alors on s'était étonné avec un petit peu de réserve la première fois, puisqu'un intervenant ouvertement antisémite, comme le qualifie à juste titre le collectif Antifa d'Orléans, devait donc intervenir à l'une de ces soirées. La médiathèque lui avait été prêtée. Et finalement, après avoir été alerté à plusieurs reprises, notamment par les médias et par toujours le collectif Antifa sur les réseaux sociaux, Serge Gouard avait finalement décliné l'offre de prêt de cette salle de la médiathèque, et il avait dû donc se rabattre finalement sur une salle de l'évêché. L'évêché, ayant été prévenu, avait aussi décliné, et ils avaient fini dans un restaurant, si mes souvenirs sont bons, de la place d'Orléans. Et là, bizarrement, donc, on en est à la troisième fois quand même. C'est-à-dire que pour la troisième fois, cette association est reconnue comme une association culturelle, sportive, enfin vraiment à égalité, alors qu'elle charrie, et il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux, elle charrie vraiment le pire du pire. Alors ce soir, de ce que peut produire l'extrême droite. Ce soir, ce sera à 19h30, donc il y a un rassemblement devant la médiathèque, la salle Marcel Régui. En plus, Marcel Régui, quand on connaît son histoire, on se dit que c'est pas forcément associable à ce genre de mouvement. Et là, ils vont traiter de la Vendée, de ce qui s'est passé avec les Chouans, en posant la question faussement naïve de savoir s'il s'agissait ou pas d'un génocide de la part des Républicains. Avec évidemment comme réponse, la réponse est dans la question, pour eux c'est un génocide, alors qu'en fait les historiens sérieux ne qualifient évidemment pas ce qui s'est passé en Vendée pendant la Révolution française de génocide. Donc il y a une revisite, on va dire ça comme ça pour être très soft, une revisite de l'histoire qui n'est pas tenable dans une salle municipale. Et là, je ne comprends pas à quoi joue Serge Gouard, pour être très, très précis, puisque là, il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Il ne peut pas dire qu'il y avait un cheval de Troie, c'est-à-dire que on loue la salle avec un nom, monsieur un tel, madame une telle, et on ne précise pas, ce qui arrive très souvent, on ne précise pas l'objet exact de la location, l'objet exact de la soirée. Et du coup, effectivement, il y a des maires qui se font avoir. Là, franchement, il est tout à fait au courant, donc c'est de manière complètement assumée qu'il accepte de prêter ou de louer une salle municipale du nom de Marcel Régui. J'invite vraiment les auditeurs et les auditrices à aller voir R-E-2-G-U-I, Marcel de son prénom, aller voir son histoire et son profil, sachant que donc ce groupuscule souverainiste est en fait à la fois islamophobe, c'est-à-dire ouvertement raciste, sexiste, puisqu'ils combattent l'IVG, par exemple, le droit des femmes à disposer de leur corps, et par ailleurs, ils ont des contacts très proches avec des gens qui pratiquent l'antisémitisme et toute une série de dérives comme celle de ce soir, donc sur le fait de revisiter l'histoire de France au profit de thèses et de théories qui sont mises à mal par les historiens dans leur grande majorité.
Mais dans la précédente émission où nous parlions de France Souveraineté, nous nous étonnions de d'un courrier, je crois, hein, que l'association avait envoyé au maire d'Orléans, ou une réaction, n'est-ce pas, sur leur site info, remerciant le maire d'Orléans de la confiance qui témoigne à cette association.
Ah oui, c'est ce qu'ils ont refait. Ouais. C'est ce qu'ils ont refait, mais comme la salle qui avait été prêtée la salle Eiffel qui avait été prêtée aux Zemmouriens, au mois de janvier 2022, si mes souvenirs sont bons, au moment de la création de du lancement du mouvement de Zemmour sur le Loiret, il avait été chaleureusement remercié pour le prêt de cette salle, et il avait même été excusé de son absence. Il quand même commence à poser quelques questions, et du coup, peut-être s'exprimera-t-il sur cette question, mais il a l'air de pas du tout avoir besoin de rendre compte à qui que ce soit de ces prêts à répétition, et ça commence à poser un peu question. Alors je ne sais pas, puisque comme nous le précisons depuis quelques semaines, je ne suis pas sur Orléans en ce moment, mais sur l'île pour une autre mission, une autre aventure, mais je ne sais pas à l'heure à laquelle je vous parle, donc à quelques minutes de la manifestation, je ne sais pas si le groupe d'opposition municipale est métropolitain. Je ne sais pas s'ils ont appelé ou pas à participer à cette manifestation. Je crois que oui, mais je ne sais pas s'il y a eu de communication officielle. À ma connaissance,
Le groupe écologie, si. Et le groupe OSE, je crois. Hein. C'est eux, si, oui. Mais sinon, je n'en ai pas vu d'autres, pour l'instant.
D'accord. Voilà. Donc, à voir.
De toute façon, on en reparlera très, très, très bientôt dans cette émission. Mourad, nous allons parler maintenant de cette affaire de subvention par le gouvernement, un fonds gouvernemental censé aider des associations qui, comme le dit le gouvernement, promeuvent des valeurs républicaines et combattent le séparatisme. Des noms sont sortis d'une enquête menée par l'œil du 20h de France 2 et le magazine Marianne, dont celui de Mohamed Sifaoui, qui, semble-t-il, se serait grassement rémunéré sur ses subventions gouvernementales. Ce journaliste, dont je suis la carrière depuis longtemps, une carrière controversée.
Ah oui, très controversée. Alors c'était parti de Daniel Schneiderman, je crois. Alors ça devait être à la fin des années 90 ou au début des années 2000, dans son émission Arrêt sur image, qui était sur la 5e, si mes souvenirs sont bons, avait pointé des bizarreries dans les documentaires réalisés par ce fameux Mohamed Sifaoui, ce sulfureux Mohamed Sifaoui, sachant qu'en gros il y avait dans ses reportages, notamment pour TF1, sur l'islamisme, des postures, des images, des choses qu'on attendait de lui. C'est-à-dire qu'il servait, il donnait l'impression très fortement de servir ce qu'on attendait. C'est-à-dire de mettre des flous là, il n'y en a pas besoin, de rendre anxiogène ses mises en scène et ses reportages, de façon à créer une espèce d'angoisse et de produit fini qui correspond à ce qu'on lui demandait. Donc c'était, on appelle ça un peu bidonné hein, parfois, ce genre de reportage. Et puis il s'est imposé comme quelqu'un avec beaucoup de zones d'ombre dans sa vie privée, et puis dans sa vie professionnelle, mais étant le combattant acharné contre l'islamisme, l'islamisation, et ainsi de suite. Et ben, il en a fait business, quoi. Mmh. Et là où on arrête de rire, c'est qu'en fait, effectivement, un fonds a été créé, le fonds Marianne, suite à l'assassinat de Samuel Paty, ce fameux enseignant qui avait été égorgé. et de plusieurs millions, doté de plusieurs millions d'euros. Et effectivement, il a été distribué par Marlène Schiappa, la ministre d'alors, dans des conditions extrêmement floues et surtout, visiblement, aux copains et aux copines, notamment du fameux printemps républicain qui fédère un peu toute cette mouvance. Là, on retrouve des gens comme Enthoven et compagnie. Et d'après les premières explications de Mohamed Sifaoui, qui dit qu'il a fait le job, en fait, il n'a fait que valider des tweets et des posts au Facebook. Enfin, je veux dire, bonjour le travail pour avoir touché plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, il y a, alors, une enquête est ouverte. D'une part, le gouvernement ne réagit toujours pas, mais une enquête est ouverte et une enquête en interne de la fameuse association qui a bénéficié de ces fonds indirectement, puisqu'en fait, ça a surtout servi à payer des salaires très confortables à Mohamed Sifaoui, sans résultat. Ce serait visiblement la création de comptes anonymes, c'est-à-dire des comptes avec des pseudos complètement fantaisistes, mais qui allaient cibler, faire du harcèlement, dénoncer des gens, notamment Rokhaya Diallo et d'autres personnalités jugées proches des islamistes, jugées wokistes, avec ce fameux mot dont on cherche toujours la signification. Et donc, c'est une véritable guerre, en fait, à la fois politique, idéologique et surtout crapuleuse, puisqu'en fait, on s'attaque à des gens avec un visage masqué, ce qui n'a rien à voir, par exemple, hein, avec des gens qui auraient des pseudos et qui s'adresseraient à d'autres sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très courant. Là, c'est des gens qui ont été ciblés nommément, qui ont été balancés en pâture et traités d'islamistes. Alors, être traité d'islamiste au lendemain de la mort de Samuel Paty, de l'assassinat de Samuel Paty, vous imaginez bien le poids que ça peut avoir. Et donc, tout ça, ça s'est fait sur des fonds publics au nom d'une victime de l'islamisme, pour le coup, Samuel Paty, et c'est juste moralement absolument condamnable. Et pour le coup, j'espère que ça ira sur le terrain judiciaire pour qu'enfin Mohamed Sifaoui, qui trempe également, qui est également chargé de communication pour un club de foot dont j'ai oublié le nom.
Le SCO d'Angers.
Voilà, merci. C'est Angers. Et donc, qui mouille également dans une affaire avec ce club d'Angers. J'espère qu'à un moment donné, on va arrêter la mauvaise plaisanterie et que ces gens-là vont avoir des comptes à rendre devant la justice et qu'on ne va pas s'acheminer vers une espèce de fin d'affaire Benalla où, je rappelle, il n'a toujours pas été réellement inquiété malgré ce qu'on lui reproche.
Encore un mot sur le passé de Mohamed Sifaoui. Il est arrivé en France réfugié, journaliste en Algérie, menacé par les islamistes. Depuis, il a fait son chemin ici, comme tu le racontais tout à l'heure. Et puis, il a intégré le printemps républicain. Je voudrais que tu expliques aux auditeurs et aux auditrices ce que c'est le printemps républicain.
Alors, c'est quelque chose qui a été... c'est un mouvement. Au départ, c'était une association. C'est devenu un mouvement politique fondé par notamment des proches de Manuel Valls. Je pense notamment à Gilles Clavreux, le préfet, qui est régulièrement pointé du doigt pour organiser des espèces d'interventions auprès de collectivités. Je pense notamment à Argenteuil. Ou pour des interventions, quelques interventions sur la laïcité. Il avait touché 82 000 euros, je crois. Donc voilà, c'est des gens qui... L'argent n'est jamais très loin d'eux. Valls, Raphaël Enthoven, le philosophe des réseaux sociaux, très présent sur les plateaux de télé notamment, qui passe quasiment sa vie sur Twitter. Vous pouvez aller vérifier le nombre de tweets incroyables qu'il peut poster, avec des avis très tranchés en disant qu'il ne s'interdisait pas de voter Marine Le Pen à 19h59 un soir de scrutin. Donc c'est pour vous dire un peu le niveau. Donc c'est des gens qui fricotent avec l'extrême droite, qui sont invités très régulièrement à des conventions, des colloques, des meetings. On l'a vu avec Marion Maréchal Le Pen, par exemple. Donc ils mettent dos à dos la France Insoumise ou la NUPES avec le Rassemblement National, avec quand même une nette préférence, et ils s'en cachent de moins en moins, pour le Rassemblement National. On retrouve notamment Amin El Khatmi, qui est le président, ou qui a été le président, je ne sais plus trop quel est son statut actuellement, qu'on retrouvait régulièrement sur CNews, à tenir des propos complètement fantasmés sur la société française, avec des propos à la limite de l'invention concernant son enfance dans les cités. Enfin bon, il faut bien se faire valoir. Et voilà. Et là, on découvre que tout ça, finalement, ça, soutenu par Blanquer, soutenu par Schiappa, tout ça, a sans doute profité à un certain nombre d'entre eux et que là, on voit que ce n'est pas des petites sommes et que ça devient problématique. Simplement, je pense qu'il y avait une espèce d'impunité. Ils jouissaient d'une espèce d'impunité avec des copains dans les ministères, des copains au plus haut sommet de l'État. Et que là, malheureusement pour eux, ça se sait et qu'il y aura, je l'espère, je le redis, des suites judiciaires.
Un dernier mot, toutes ces personnes, dont notamment M. El Haddmi, que tu viens de, dont tu viens de parler, tout ce monde vient de la gauche. Mohamed El Haddmi était oui. soutien de Ségolène Royal et d'Arnaud Montebourg. Hein. Il faut le dire.
Absolument, absolument. Il y a une vidéo, Ségolène, maman et moi, que l'on peut aller voir sur, sur les réseaux, enfin sur YouTube. Il y a une vidéo donc, qui est extraite de Striptease, l'émission Striptease, où il était suivi au moment de la campagne de 2007 de Ségolène Royal, où il voue une espèce de, d'admiration sans borne, quasi mystique pour Ségolène Royal. Et il passe de, donc de Ségolène Royal à Valls et à CNews. Donc vous voyez, la dérive est complètement claire et limpide, malheureusement.
Tout ça pose des questions, évidemment, et nous les posons ici avec toi, Mourad, tous les mardis à 19h. Merci encore d'avoir participé à cette émission. On se donne rendez-vous très vite.
Ah, merci infiniment et bonne semaine à toutes et à tous.
Sur son album Deuce is Wild en 1997, le grand bluesman B.B. King invitait les différents artistes à reprendre avec lui ses grands succès. Avec Tracy Chapman, il reprenait Thrill is Gone à l'instant dans À bâton rompu.
À bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours tous les mardis de 19h à 20h.
Informatique fondamentale, architecture logicielle, informatique mobile, big data, sécurité, intelligence artificielle. Ce sont les domaines d'enseignement en informatique à l'Université d'Orléans, Alexandre Tessier. S'il y avait une présentation globale de ces enseignements à faire, que faudrait-il dire ?
Alors, donc, nous, on propose, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, une licence et deux masters. Alors, souvent, les gens s'imaginent que l'informatique, ça se limite à la programmation, au codage. Et effectivement, donc, ça couvre plein d'autres domaines. Donc, comme tu l'as dit, hein, l'intelligence artificielle, il y a aussi l'informatique fondamentale, hein, les aspects plus théoriques de l'informatique. Il y a tout ce qui tourne autour des systèmes d'information, bases de données, donc tout un tas de choses. Et puis le développement nomade, la sécurité, voilà, donc plein d'aspects qu'on peut étudier chez nous dans nos formations.
Oui, alors ça commence évidemment. La base, c'est une licence, un master. C'est quoi les domaines pour la licence et le master? On disait tout à l'heure au début, il y a trois pôles. Dans le pôle informatique, il y a trois enseignements principaux.
Alors, Donc effectivement, on commence par la licence. Hein, c'est le système qu'on appelle LMD, hein, Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 8. Donc nous, on commence par la licence. Alors la licence, c'est une formation très généraliste, hein, où on apprend les bases, le but étant de préparer pour faire un master derrière. Donc on va forcément au minimum à Bac plus 5, hein, au niveau master. Et en licence, donc on va voir les bases de programmation, en informatique fondamentale, les différents domaines à connaître, un peu de base de données. Et puis c'est ensuite en master qu'on va se spécialiser. Donc là, on a un master MIAGE, un master informatique, chacun proposant ses spécialités.
MIAGE, on en parle tout de suite, hein. Méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. C'est le domaine qui marche le mieux chez vous. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui trouvent du boulot en sortant de Master MIAGE ici.
Alors, en fait, tous trouvent du boulot. Ouais, voilà.
faut le dire vite, non.
Tous trouvent du boulot. Tous trouvent du boulot. Bon, faut savoir qu'il manque. Alors, j'ai pas les chiffres exacts. Hein, chacun a plus ou moins ses chiffres, mais il manque plusieurs dizaines de milliers d'informaticiens en France.
Oui, ça on le sait. On en est où? Alors, on a beaucoup d'étudiants et étudiantes qu'on met sur le marché, parce que c'est vrai qu'il y a un manque de.
Alors, pour les entreprises, on n'en met pas assez. Donc, nous, on aimerait bien en mettre plus. Bon, alors après, on fait avec nos moyens. Hein, mais donc, il n'y a pas de problème d'employabilité, on va dire, pour nos étudiants qui sortent de master. Alors, il se trouve que la formation MIAGE a une particularité, c'est que le master, les deux années de master, peuvent se faire en apprentissage. Donc, en fait, les étudiants, en réalité, sont recrutés dès le M1.
Oui, c'est ça. Et on a beaucoup d'entreprises, hein, autour de l'université, en tout cas, pour hein, ça marche. Alors, en MIAGE, il y a aussi l'aspect gestion lié à l'informatique.
Voilà. Alors, c'est une formation, on va dire, contrairement au master informatique, qui est vraiment une formation purement informatique, la MIAGE, c'est une formation qui avec une dimension informatique, plus système d'information, on va dire, et puis aussi des choses autour de la gestion d'entreprise.
Oui. En 3 ans, qu'il y a une licence et un master.
Alors, elle est en réalité, elle n'est pas tout à fait sur 3 ans, parce que normalement, dans le cycle LMD, hein, c'est vraiment les trois années de licence et 2 années de master, mais on voit la MIAGE qui commence en 3e année de licence, comme effectivement une formation sur 3 ans, donc la 3e année de licence et les 2 années de master.
Avec des compétences en gestion, management et communication. Hein.
Voilà. Ouais.
Alors, vos étudiants n'ont pas trop de problèmes. On va parler maintenant de précarité numérique étudiante. Il n'y a pas trop de problèmes. Ils sont tous équipés. Quand ils n'en ont pas, vous les aidez.
Effectivement. Bon, nos étudiants sont en général bien équipés. On a aussi du matériel à leur disposition. Donc, il n'y a pas trop de soucis, sauf peut-être effectivement dans la période Covid où les étudiants n'avaient plus accès à nos salles.
Ça a été un problème aussi chez vous, ça ?
Certains, voilà, n'avaient pas forcément l'équipement nécessaire pour pouvoir faire ce qu'on leur demandait de faire.
D'accord.
Des fois, ça peut demander voilà, des configurations particulières de machines.
Bien sûr. Ah oui, très bien. Très bien, non. pas bien du tout. Pas bien du tout. Aurélien Foucré, je me tourne vers vous maintenant. Du réseau numérique. Hein. C'est un réseau d'acteurs, je disais, de l'inclusion numérique de la métropole orléanaise. On vous voit de plus en plus à l'université, dans les murs de l'université. Qu'est-ce que vous y faites ?
J'y traîne mes guêtres. en fait, j'ai été mis en contact avec le bureau de l'aide par intermédiaire en fait, de la directrice du CCAS, Carole Vidal, qui travaillait en fait, sur les questions de bien-être étudiant, voilà, sur tous ces sujets-là, de précarité étudiante. Et étant le coordinateur du réseau d'inclusion numérique, elle m'a sollicité en fait, pour intervenir auprès du bureau de l'aide pour réfléchir les questions de précarité numérique des étudiants et de voir quel type de fléchage on pouvait faire sur les accompagnements à la fois à l'équipement numérique, mais également en montée de compétences de base au numérique, puisqu'il y a aussi tout un tas de clichés qui sont véhiculés auprès des jeunes et du numérique. Les digital natives et les millennials, on pense qu'ils sont très à l'aise avec le numérique, mais
absolument.
Il y a pas mal de problèmes avec un certain nombre de jeunes, donc... Donc nous voilà, on est en train de réfléchir à comment structurer une filière pour aider le maximum de jeunes possible sur l'aide à l'équipement notamment. Alors les chiffres sont assez récents, donc on a participé à la restitution de l'étude qui a été faite par Ocampus
vendredi dernier.
Vendredi dernier. Et donc, il y a, je crois, 13% des étudiants qui n'ont pas de matériel informatique. Donc, sur un campus, je crois que c'est 15 000 ou 16 000
c'est
étudiants.
Ça, absolument.
Voilà, ça fait quand même un sacré nombre de jeunes qui n'ont pas accès à du matériel informatique, ce qui est, pour le coup, ultra important pour poursuivre ses études. Donc, voilà, on réfléchit à structurer cette filière-là, et à comment on peut monter le projet, à comment on peut trouver les financements des mécènes ou des institutions publiques pour nous aider à équiper ces jeunes-là. C'est un travail de longue haleine, on y réfléchit depuis quelques semaines, on est loin d'être arrivé au bout de nos peines, mais voilà, on essaye de répondre à ce besoin-là en tout cas.
Mais justement, alors, vous êtes, vous, au réseau numérique, vous travaillez avec pas mal de vous disiez, hein, des sponsors, des... voilà. Mais comment ça se passe? Enfin, vous avez un réseau de sponsors qui sont prêts à venir, peut-être...
Alors, je vais faire un petit peu l'historique de ce qu'est le réseau numérique. En fait, c'est... Voilà. Comme je disais en 2018-2019, donc il y avait Orléans Métropole, la ville d'Orléans, qui en fait a lancé une initiative partenariale qui vise en fait à travailler sur l'inclusion numérique de tous les citoyens de la métropole. Ils ont donc réuni un pool de partenaires, de grandes institutions type CARSAT, Pôle Emploi, aussi des fondations privées type AG2R La Mondiale. Voilà, il y a une dizaine de partenaires en fait qui travaillent sur les sujets de l'inclusion numérique, et ils ont donc ciblé l'association, donc celle pour laquelle je travaille, le CRIA 45, pour en fait porter la coordination de cette tête de réseau. L'objectif en fait de ce réseau-là, c'est de mettre en relation les différents acteurs de l'inclusion numérique, que ce soit les médiateurs numériques, les conseillers numériques, tous les points de médiation numérique qui peuvent exister sur Orléans Métropole. Et le but, c'est à la fois d'outiller, d'avoir une veille sur les initiatives un peu nationales, essayer de les importer sur le territoire métropolitain, d'essaimer de nouvelles actions, de former les gens aussi aux différents sujets numériques qui arrivent, et aussi une grosse partie d'acculturation numérique, parce qu'il y a besoin d'acculturer les gens au numérique pour qu'on comprenne bien les enjeux qui traversent la société sur ces sujets-là. Et donc pour nous, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir mettre un maximum de points de médiation numérique et d'accompagner un maximum de populations sur les sujets numériques. Ça a été fait historiquement, c'est pas tout à fait ça, mais bon, dans les faits, c'est quand même un peu ça. Surtout beaucoup pour les seniors, parce que la numérisation de la société a quand même mis de côté les seniors sur l'accès aux droits, notamment, beaucoup. Et donc, du coup, ça s'est fait par cette porte d'entrée-là, un petit peu. Maintenant, il s'agit aussi des questions d'accès à l'emploi, d'accès aux droits, comme je l'ai dit, de culture numérique, protection des données. Enfin, il y a tout un tas de sujets comme ça qui traversent un petit peu la société. Et donc, en fait, nous, notre but au réseau, c'est d'essayer de travailler en commun avec les collectivités, avec les associations qui traitent ces sujets-là, et puis d'essayer de mettre en place des parcours d'orientation, des parcours d'apprentissage, valoriser les compétences numériques et de faire en sorte de laisser le moins de gens possible sur le côté.
Victor ?
Oui, moi je voulais demander, au final, quand, dans votre processus d'accompagnement des jeunes vers le numérique, est-ce que vous avez remarqué des tendances en termes de classe sociale ou de milieu d'origine qui peuvent expliquer parfois qu'il y a une certaine fracture numérique au niveau des jeunes ?
Alors, quand on a discuté, moi c'est quelque chose que j'ai découvert là en travaillant justement avec le bureau de l'aide, parce que c'est un sujet qui était laissé de côté, la jeunesse, hein, voilà, c'est pas que le numérique, généralement la jeunesse est plus ou moins laissée de côté lorsqu'il s'agit de faire des études ou quoi que ce soit, mais c'est surtout les étudiants étrangers sur le campus qui sont vraiment laissés de côté. Eux, ils n'ont pas cette habitude de travail numérique quand ils arrivent, notamment par exemple des pays d'Afrique, et quand ils arrivent ici, tout est numérisé, alors ça pose un vrai souci, quoi. Donc on a vraiment ce public-là d'origine... majoritairement d'origine africaine, de ce que j'ai compris. Et puis après, c'est aussi des étudiants qui ne sont parfois pas boursiers et qui ont des difficultés à accéder à ce matériel-là aussi, parce qu'un matériel neuf peut coûter en moyenne 400 à 500 euros quand on est sur les entrées de gamme. Hein. Et quand on va faire, je ne sais pas moi, un master en géographie, qu'on a besoin de faire tourner un logiciel de cartographie qui réclame quand même pas mal de configurations sur l'équipement numérique, et ben, on ne peut pas toujours accéder à cette tâche-là. Donc soit on passe par un prêt étudiant, etc. etc. Donc oui, il y a quand même une catégorie sociale qui est quand même assez définie, mais la grande majorité de ceux qui sont laissés de côté, c'est quand même les étudiants étrangers. Voilà. C'est eux qui ont le plus de difficultés à accéder à tout ça. Ouais.
Alexandre Tessier, vous l'avez remarqué. Ah, peut-être tu
n'as pas fini ta question. J'ai fini ma question.
Vous l'avez remarqué aussi, ça, que les étudiants étrangers, notamment d'Afrique, avaient plus de problèmes. Est-ce que c'est le cas chez vous, en informatique ?
Alors nous, bon, comme c'est des étudiants qui viennent faire de l'informatique en général, ils ont quand même un goût pour ça et ils ont déjà pratiqué avant de venir. Mais effectivement, sur les étudiants étrangers sont moins habitués, surtout, comme tu disais, ceux qui viennent d'Afrique, à l'utilisation des outils, en particulier qu'on utilise de plus en plus, notamment depuis la crise Covid, où on utilise plus les outils de formation à distance, que ce soit donc notre plateforme d'enseignement à distance ou de visioconférence ou de choses comme ça. Voilà, donc y a moins l'habitude de travailler avec ces outils-là.
J'ai lu quelque part, après moi je trouve ça très étonnant, 2 ans après le confinement et le Covid, que le niveau avait baissé généralement en première année de licence. C'est vrai ou pas? Ceux de l'année dernière, est-ce que...
C'est toujours compliqué parce que bon, comme le niveau baisse toujours, on se demande où on est arrivé. Non, je ne sais pas si le niveau a baissé. Bon, c'est vrai que malheureusement, ceux qui sont tombés pendant la période de la crise, que ce soit au lycée ou même ceux qui étaient déjà à l'université, bon, ça a été des années d'enseignement, on va dire, une année très difficile, une deuxième année qui était quand même pas terrible non plus. Et forcément, ça se ressent derrière.
Oui. Mais bon, après, bon, je trouve toujours étonnant hein, des conclusions aussi hâtives au bout de 2 ans. Enfin, bon, voilà, quoi. Mais Aurélien Foucré, vous parlez aussi de formation. Vous en faites, vous?
Alors, nous, à proprement parler, on ne forme pas le public. On va orienter le public vers les points de médiation numérique. Il y a tout un tas d'acteurs sur le territoire d'Orléans Métropole qui accompagnent très bien. C'est leur métier. Ils sont formés à ça. Ce sont les médiateurs numériques ou des conseillers numériques France Service. Donc, ils ont des formations pour accompagner le public. Ils ont des modules pédagogiques aussi qu'ils peuvent déployer auprès du public. Donc, nous, à proprement parler, on n'accompagne pas le public. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un peu de l'ingénierie de projet, c'est-à-dire mettre en place des processus d'apprentissage du numérique sur un territoire donné, quand on coupe certaines données d'INSEE, etc. Enfin, voilà, on a toute une méthodologie qui nous permet de déterminer les endroits où il faut développer tout ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est flécher un peu des parcours d'orientation pour les publics qui sont dans un besoin de monter en compétences numériques.
Mais j'ai vu que vous avez fait une action il n'y a pas très longtemps, là, au mois de mars, au Relais Orléanais, qui est un lieu qui accueille des gens dans la précarité. Mmh. Vous y faisiez quoi, alors?
Alors, on a une enveloppe qui nous est donnée par la Fondation Orléans, donc, qui fait de la levée de fonds auprès de grands mécènes d'Orléans Métropole. Et en fait, on a une enveloppe tous les ans pour équiper les structures en matériel informatique. Nous, on a conventionné avec Norip, Norip Shop, sur la chapelle Saint-Mémin, qui est un reconditionneur, parce que ça nous paraît important aussi de travailler sur l'économie circulaire, l'économie locale, faire travailler...
Très bonne idée.
Voilà, c'est des sujets qui nous intéressent et qui nous concernent tous. Donc en fait, on équipe les structures qui ont des budgets un petit peu serrés pour acheter du matériel informatique. Et du coup, en fait, voilà, on achète des ordinateurs pour ce type de structure-là et puis on leur donne pour qu'ils puissent faire de l'accompagnement numérique auprès des publics.
Et aujourd'hui, quand on n'a pas un ordinateur, on n'est rien.
À l'heure actuelle, oui.
Ouais. Ouais. On est, comme dirait notre président, on est à la gare et on n'est rien. Voilà. Bon, bref, c'est un autre sujet. Est-ce que, Alexandre Tessier, c'est ça? Enfin, aujourd'hui, si on ne connaît rien en numérique, on est zéro.
Alors, effectivement, bon, c'est vrai que dans la société dans laquelle on est maintenant, c'est difficile, très difficile de s'en passer. Pour nos étudiants, c'est même carrément impossible, puisque de toute façon, ils ont besoin d'accéder à l'ENT, sur lequel ils vont trouver toutes sortes de choses, leur emploi du temps, les cours en ligne, tout un tas de leurs mails, etc. Donc, de toute façon, c'est impossible d'être étudiant aujourd'hui sans avoir un accès au numérique.
Question philosophique, ça ne vous dérange pas? Non, vous êtes enseignant dans la... Vous allez me dire, mais non, c'est bien, c'est... Hein?
C'est notre fonds de commerce.
Oui, bien sûr. Aurélien, c'est dérangeant quelque part, non?
Alors, moi, du coup, je travaille pour l'inclusion numérique. Ouais. Malgré tout, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'éducation populaire en centre social. Donc, je pense qu'on a toujours besoin de contact humain et d'humain. Voilà. Donc, excusez-moi, c'est moi. Du coup, je pense qu'il faut toujours travailler sur les deux volets. Il faut faire attention à ce qu'on ne numérise pas tout, en fait. Et qui est toujours un accompagnement humain. Il y en a besoin. On se rend compte qu'il y a une typologie de public qui a toujours besoin d'avoir cet accompagnement humain et de ne pas être laissé de côté via le numérique. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas s'en passer. De toute façon, la numérisation de la société, qu'on le veuille ou non, elle est là, elle est déjà en marche depuis quelques années. Ça arrive vraiment à grands pas. Donc il faut faire en sorte d'abandonner le moins de personnes possible sur le côté.
Vous avez besoin de dons d'ordinateurs? J'ai lu ça quelque part.
Alors,
où c'est bon?
Ça va à peu près. Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Pour le moment, là, disons qu'avec Norip, avec qui on a conventionné notre partenariat, pour le moment, il a à peu près du stock. Mais bon, je fais un appel quand même. Je fais un appel à dons s'il y a des entreprises ou des organisations qui nous écoutent et qui ont du matériel informatique réformé, comme ça s'appelle dans les entreprises, on est preneur, voilà, on est tout à fait preneur.
Alors, je vais vous passer un morceau, plus un bout d'un l'extrait d'une émission que j'ai entendue hier sur Arte. Ce festival Ondulation parle évidemment de l'IA, hein, de l'intelligence artificielle. Je vais commencer quand même par le reportage, vous allez voir. C'est une chanteuse américaine qui est décédée il y a quelques années, qui a sorti un album, là, il y a le 3 mars, avec les voix retravaillées par intelligence artificielle. Et puis je vous poserai la question sur ce que vous pensez de cette façon de faire. On écoute, elle s'appelle Eva Cassidy. Écoutez ce reportage d'Arte hier.
Donc, considérée comme l'une des grandes voix du siècle. Aujourd'hui, Eva Cassidy est morte d'un cancer en 1996. Elle était considérée comme l'une des grandes voix du siècle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet la sortie d'un album entièrement réarrangé. À cette occasion, un orchestre a été ajouté et sa voix intensifiée. Matthias Strobel, président de Music Tech Germany, voit cette évolution d'un œil pour le moins sceptique.
De manière générale, je trouve très contestable, moralement et éthiquement parlant, d'intervenir sur les œuvres de personnes qui ne sont plus parmi nous. On ne peut pas partir du principe que ces artistes auraient souhaité de leur vivant qu'on profite des dernières avancées technologiques pour retravailler leurs œuvres. Comment pourrait-on en avoir la certitude ?
La musicienne berlinoise Lisa Bassange fait partie des artistes qui ne sont pas fondamentalement contre l'intelligence artificielle tant que les résultats sont convaincants. Même si elle n'y a pas encore recours, elle réclame des limites claires à son utilisation.
Je trouve difficile d'accepter qu'on extrait des voix posthumes ou bien des pistes de saxo ou de trompette et qu'on décide de faire un tout nouvel album avec Charlie Parker ou Billie Holiday et pire encore, que ce soit celui qui paye le plus qui puisse se permettre de bricoler ça.
Perspective peu réjouissante en effet. Il s'agit donc d'exploiter les chances qu'offre l'IA et de minimiser les risques.
Je suis très curieuse de découvrir tout ce qu'on peut encore réaliser grâce à ça.
L'IA fait depuis longtemps partie intégrante de l'univers musical, mais ses conséquences réelles sur l'avenir restent difficilement prévisibles.
It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, I wonder this time where. Wonder how long he's gonna stay. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home. Anytime he goes away, thank you.
L'album s'appelle I Can Only Be Me, sorti, je vous disais, début mars dernier. Et cette superbe reprise du tube légendaire de Bill Withers. Cet album, j'ai écouté la version vinyle, la version numérique d'avant. Et au casque, vraiment, il y a quelque chose qui change. Ils ont gratté des... Il y a des bouts de grains de voix qui ont été changés. Donc je voulais demander, je vais commencer par toi, parce qu'on se tutoie, on se connaît. Alexandre Tessier, qui est enseignant en informatique. L'intelligence artificielle, c'est pas un danger, vraiment, réellement. Bon, là, c'est pas encore tout à fait un danger, parce que là, il change de voix, mais par contre, on peut faire plein d'autres choses avec l'intelligence artificielle, non ?
Alors, oui, on peut faire plein de choses. Alors, je pense qu'il faudrait une émission complète, et je sais même pas si ça suffirait pour en parler. Il y a beaucoup à dire. Je crois que vous aurez d'ailleurs Mathieu Exbraya demain.
Absolument.
Sur votre antenne, qui pourra en parler plus. Je dirais, c'est un peu comme toute technologie, il faut cadrer l'usage. À mon avis, ce qui manque énormément aujourd'hui, c'est justement un cadre légal autour de tout ça. Actuellement, on a un peu l'impression qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Et je pense qu'il faut effectivement un cadre légal qui puisse déterminer ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Là, par exemple, en termes de reprise, il y a des ayants droit. Est-ce qu'ils ont donné leur accord? Est-ce qu'ils ont validé la chose? Enfin, voilà, pour moi, c'est ça le plus important. C'est comment on utilise l'IA.
On en est où, là, à l'Université d'Orléans, sur la formation en IA?
Alors, c'est une des spécialités de notre master informatique. Voilà, où on a des cours de data mining avancé, des choses comme ça.
Et vous êtes blindé, non ? Des demandes d'étudiants et d'étudiantes ? Tout le monde veut faire ça, puisque ça paye, je pense, non ?
Oui, alors, en fait, bizarrement, tout le monde en parle aujourd'hui, les entreprises, on voit. Mais pour l'instant... Peu en font déjà, quoi. Voilà, c'est il y a des réflexions là-dessus, c'est le sujet à la mode, mais c'est pas encore extrêmement présent. Voilà, il y a des petites expérimentations qui se font ici ou là, Bon, c'est des techniques complexes qui demandent quand même un certain niveau de formation. Voilà, donc c'est en cours de développement.
Aurélien Foucré, l'intelligence artificielle, ça vous fait peur ou pas? Dit comme ça, non. Attendez, voilà, allez-y.
Oui. Est-ce que ça me fait peur? Comme toute technologie, je pense que oui, effectivement, ça nécessite un cadre légal. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est en fait le manque de culture numérique diffusée dans les sociétés, en fait. Le sujet de l'IA, il est sur toutes les lèvres parce qu'on en parle beaucoup avec ChatGPT. Mais la question, par exemple, des données personnelles, du traitement des données personnelles, la question de la vie privée et publique sur les réseaux sociaux, il y a plein de sujets, en fait, qui sont traités par le numérique et qui ne sont pas diffusés en termes de culture au sein de la société. Donc, pour moi, il y a aussi toute une question d'éducation populaire, pour le coup, à faire autour de ces sujets-là. Il faut que les gens s'emparent de ça, mais il faut qu'on leur explique aussi très concrètement, peut-être en vulgarisant un petit peu pour qu'ils puissent comprendre de quoi il en retourne. Voilà, l'IA, ceux qui ne connaissent pas, moi je ne suis pas un spécialiste, je ne pourrais pas vous dire techniquement exactement comment c'est fait et comment ça fonctionne. Mais oui, ça peut faire peur si effectivement, à mon sens, on laisse ça que dans les mains du privé. Après, j'ai confiance, il existe aussi des organisations et des associations qui sont des lanceurs d'alerte et qui vont travailler sur ces sujets-là. Il y a la Quadrature du Net qui a travaillé à l'époque sur les questions de données personnelles. On peut que les remercier pour leur travail. Grâce à eux, on a eu le RGPD. Donc voilà, je pense qu'il y aura toujours des gens qui auront cette vocation à dire attention, attention à ce qui se passe et à réussir à créer un cadre légal autour de ça.
Victor ?
Oui, moi je voudrais dire que en fait l'IA, tant que ça reste sur des petits trucs type refaire les voix de personnes mortes, ce genre de choses, etc., ça me fait pas si peur que ça. Mais après, faut voir aussi qu'il y a, par exemple, l'armée américaine a énormément investi d'argent dans l'intelligence artificielle, notamment dans Boston Dynamics qui fait des robots, etc. et tout. Et ils ont mis en place pour la première fois, je crois que c'était l'année dernière, pour les émeutes des Black Lives Matter, ils ont mis en place des chiens policiers mécaniques, en fait, qui vont pourchasser les manifestants dans les rues, etc., et les mettre à terre. Là, ça fait quand même un petit peu penser au pire de la science-fiction, et c'est vrai que, voilà, Tant que ça reste des trucs un peu rigolos, pourquoi pas, mais à partir du moment où ça touche à l'armement et à la police, je pense que l'IA, ça peut être sacrément flippant, quoi. Ouais.
Alexandre, en tant que directeur du pôle informatique, je pense que tu dois avoir des discussions avec des élus, au moins locaux, en tout cas. Est-ce que ce sont des choses auxquelles ils pensent? Là, on va revenir tout à l'heure tout à l'heure, Aurélien disait, il faut de l'éducation populaire, voilà. C'est un
culture numérique.
Dans la culture numérique, est-ce qu'ils y pensent? Ou alors, c'est l'informatique, ça doit rapporter du fric tout de suite, et on y va.
Alors,
Ne veux pas te mettre en difficulté. Ne cite pas de nom, si tu veux.
Je pense qu'au niveau des élus, effectivement, il y a un manque de formation sur ces sujets-là, bon, qui sont des sujets assez complexes. Oui.
Mais est-ce qu'ils te demandent des explications? Enfin, voilà, avant de prendre des décisions, je pense qu'il faut qu'ils sachent.
Alors effectivement, il y a des groupes constitués au niveau régional, il y a des associations, ils ont des interlocuteurs, voilà, dans lesquels nous, on peut participer aussi pour les aider sur un certain nombre de réflexions. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle intelligence artificielle, et on parlait aussi d'exploitation de données personnelles, plus on connaît le sujet, plus ça fait peur. Voilà. Ah. Et peut-être que comme ils connaissent pas très bien le sujet, pour l'instant, ils n'ont pas trop peur. Voilà.
Ouais, c'est ça le truc.
C'est d'accord.
C'est ça le truc. Aurélien, justement, alors, qu'est-ce que ça peut être la formation, l'éducation populaire dans l'informatique?
Bah, c'est faire en sorte déjà de mettre des gens formés, compétents, capables de vulgariser aussi un petit peu parfois face au public. C'est aussi diffuser ça assez rapidement au sein de l'éducation nationale et auprès de nos élèves. Voilà, c'est tout un processus qui prend des années en fait. Hein. Donc il faut effectivement que les élus aient conscience de cette problématique-là. Peut-être pas toujours. Certains ont conscience, d'autres pas. Et donc, il faut diffuser ça le plus tôt possible en termes d'éducation. Donc, pour ça, il faut mettre des gens formés, compétents, capables d'expliquer, capables d'amener nos gamins à comprendre ces sujets-là, à s'en emparer, à y réfléchir, à les amender. Voilà. Après, quand on crée de l'intelligence collective autour de ça, moi, je suis assez convaincu que naturellement, on arrivera à se prémunir de certaines dérives.
Et ça existe, là, dans le Loiret ou pas, des formations de ce type-là avec des gens qui...
Alors,
dans les écoles, qui travaillent dans les écoles avec des enfants, en leur expliquant, comme disait Alexandre, pour savoir, les sachants sachent.
Alors, il y a des associations qui interviennent, mais tout ça, c'est au bon vouloir soit d'un directeur d'établissement.
Oui, bien sûr, évidemment.
Voilà, donc ça dépend de ce qui a envie d'être développé au sein des établissements scolaires. Mais oui, ça existe, et il y a des gens capables d'en parler. Il y a des professionnels qui sont tout à fait compétents, tout à fait alertés sur ces sujets-là. Et ça peut exister. Moi, à mon goût, pas assez. Mais voilà, l'école fonctionne toujours un peu trop en vase clos, à mon sens. Ça ne s'ouvre pas encore assez aux associations. Mais ça dépend toujours des volontés. Voilà, c'est pas...
Alexandre, ce midi, Frédéric Moal était... Alors, je vais demander à... Est-ce qu'il est là, Erwan, dans le public? Est-ce qu'il monte sur scène, cher Erwan? Ce midi, tu recevais donc des acteurs de l'informatique de l'Université d'Orléans, dans Frédéric Moal, hein, et qui disait, à la fin, je crois avoir entendu ça, il ne faut pas avoir peur. S'il ne faut pas avoir peur. Tout se passe bien. Ça va être aussi la dernière question que je vais poser à Alexandre tout à l'heure. Il y a de plus en plus de filles qui arrivent, alors que tout le monde dit que ce n'est pas vrai.
Sur l'inclusion homme-femme dans le numérique.
Oui, c'est ça. Il disait ça ce midi, hein, Frédéric Moal, si je me trompe pas à la fin.
J'avais trois invités. Donc j'avais Frédéric Moal, j'avais Arnaud Moisard, donc oui. Tous deux de l'Université d'Orléans. Et également, j'avais donc Benjamin Cadon de la Labo Média. Et selon chaque personne que j'ai interrogée, sur justement la part homme-femme dans leurs différentes structures, c'était jamais la même réponse. Et là, encore une fois, je le soulignais ce midi, je le ressouligne encore une fois ce soir, on n'est que des hommes autour de cette table.
Oui, c'est vrai, vous avez vu. Bah, et encore, moi, je fais un peu diversion, je suis un peu colorisé, vous voyez. Parce que sinon, on serait tous hommes blancs. Mais voilà, il y a de plus en plus de femmes. Vous me disiez dans une interview...
Où sont-elles?
Ben oui.
Non, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est marrant, parce que l'informatique... À l'origine, ça s'est développé dans les années 60, et c'était énormément des femmes qui étaient en informatique. Et puis, c'est devenu de plus en plus masculin. Mmh. Effectivement, bon, je pense que il y a l'image un peu, voilà, du geek, voilà, qui passe ses journées tout seul derrière son écran, à social et compagnie. Bon, ce qui est complètement faux, puisque ça ne correspond pas du tout au métier de l'informatique dans l'entreprise. Et moi, par contre, j'ai bon espoir que ça évolue parce que, donc, suite à la réforme du lycée, il y a eu la création de la spécialité NSI, oui, numérique et sciences informatiques. Mmh. Et je pense que grâce à ça, on va peut-être avoir plus de filles qui vont effectivement se rendre compte que l'informatique, c'est pas, peut-être pas ce que les jeunes imaginent. Mmh. Et c'est plein de métiers différents, des métiers aussi de communication, d'échange. Mmh. Voilà, et c'est pas uniquement passer sa journée derrière son écran à taper du code.
Et à manger des chips. Voilà. Aurélien, sur les femmes, sur la disparité
Que je peux voir, moi, dans mon corps de métier, donc dans l'inclusion numérique, c'est quand même majoritairement des hommes. Oui. Voilà. Donc effectivement, on manque nous-mêmes d'inclusion, pour le coup. Donc il faut effectivement travailler sur ces sujets-là, mais voilà, j'en reviens toujours à la même chose, c'est diffuser cette culture-là auprès de tout le monde. Il faut casser les clichés, comme plein de sujets d'ailleurs dans la société, et voilà, il y a plein de clichés à casser, et faire en sorte qu'il y ait un maximum de femmes qui s'intègrent dans ces milieux-là, donc aussi aux hommes de faire un peu leur introspection et de faire attention à comment on peut accueillir les jeunes femmes dans les cursus, quoi.
Un grand merci à vous deux d'être venus à Bâton Rompu ce soir en direct du Bouillon, hein, dans le cadre du Grand Bain, le festival Ondulation créé par Radio Campus Orléans. Ça continue demain.
Ça continue demain, voilà. Donc évidemment, midi 13h, comme tous les midis, écoute ta fac. Et comme ce midi, on se donne rendez-vous demain midi, donc depuis le Bouillon. Les émissions qu'on réalise sont accessibles au public. Et demain soir, 18h, de 18h à 20h, une grande émission dédiée justement à ce sujet épineux qui est l'intelligence artificielle. On parlera de ChatGPT avec bon nombre d'intervenants. Alors des intervenants, encore une fois, de l'Université d'Orléans qui seront représentés par, tu le disais, Hassan, Mathieu Exbrayat, qui est vice-président justement sur les questions de numérique à l'université. On aura également Arnaud Moisard, accompagné de Pascal Higelin et Annelise Minard, qui sont des professeurs spécialistes justement dans le traitement automatique du langage. Mais également, on recevra Maxime Gouet, vice-président de Batar, la compagnie étudiante, oui, de théâtre, avec qui on partage nos logos à Radio Campus Orléans, mais également le directeur de l'ESSAD, Emmanuel Guez, et également il sera accompagné d'un autre Emmanuel Syriac, qui est enseignant à l'ESSAD et directeur du programme de recherche édition Media Design Expanded Publishing quand les data deviennent formes. Et également, nous aurons Jean-Marc Bourguignon de Nothing to Hide, oui, pour nous parler de formation journalistique. Absolument. Autour de l'intelligence artificielle.
Nothing to Hide, ils font ça très très bien, ils font ça partout, ils font ça en Afrique, ils font ça ici. Ça sera radiodiffusé, ça, ou...
Alors, ça ne sera pas en direct, il faudra venir en public. Au Bouillon. L'entrée, elle est libre et gratuite, et l'émission sera évidemment à découvrir sur notre site internet orleans.radiocampus.org et également sur l'antenne. La date, il faudra rester branché sur les réseaux sociaux et notre site internet pour découvrir la date de diffusion en FM.
Ah ben, on compte sur toi, on sait que tu vas faire ça bien et tu fais ça bien. Merci à Rouen, merci Victor.
Merci à toi, Sam.
Et encore une fois, merci Aurélien, merci Alexandre. On va terminer cette émission avec une petite nouveauté, c'est une nouveauté. Ce genre de voix que j'adore, ça nous vient encore une fois de Londres. Elle s'appelle Joy Oladokun, ça s'appelle Changes. C'est d'une absolue beauté.
Fire!
Passez une belle semaine. La semaine prochaine, ici, les amis du monde diplomatique. Ciao.
Rendez-nous à Sam. Fire!
Newspaper says the world's on fire. People yelling and the water's rising. It's easy to feel kinda anxious. Yeah, we thought it was the end of time, but we're still holding on and we're still trying. Life's always been a little dangerous, but I don't wanna stay the same, so I'm trying to keep up with the changes. I'm trying to keep up with the changes. What it's like to hope again and again, knowing that heart is gonna be there till the end.